l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Et direction Lourdes maintenant, puisque c'est l'heure du Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et c'est sous un très beau soleil que je vais vous accompagner durant cette heure, au cours de laquelle, dans quelques instants, nous allons retrouver la chronique verte de Benoît Guillard, qui s'est rendu il y a de cela maintenant 15 jours environ, au Salon de l'agriculture régionale qui a eu lieu à Tarbes cette année. Et il fait un petit peu le bilan des différentes de la situation actuelle en fait des agriculteurs. Nous serons en compagnie du directeur de Cerf France. Nous parlerons littérature avec Nicolas Dargegène, qui nous présentera en ce carême un livre intitulé Combat spirituel. Nous aurons les informations régionales aux alentours de 12h30, bien sûr. Et puis la chronique solidaire de Anne Deslois, ce sera axé sur la solidarité, bien sûr, avec une proposition de Jean-François Pénouette, qui est l'aumônier de la cité Saint-Pierre, la cité du Secours catholique à Lourdes. Et enfin, Alphonse Delamartine sera l'auteur qui sera mis à l'honneur aujourd'hui par Catherine Albrecht dans sa chronique littéraire sur nos belles Pyrénées. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Une heure que je vous propose de débuter, pardon, je vais y arriver, avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Je suis cette semaine encore autour d'un certain nombre d'acteurs qui sont actuellement exposants au Salon de l'agriculture de Tarbes. Et puisqu'on a fait le tour un petit peu des filières, je voulais aussi prendre le pouls, la santé, le regard que portaient les experts sur la santé économique des exploitations agricoles dans les Hautes-Pyrénées. Et donc j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec donc le président de Cerf France Hautes-Pyrénées, monsieur René Fréchou, et sa directrice, madame Catherine Dupont, qui ont bien voulu me procurer un peu de temps et répondre à mes questions. Bon, l'idée, entre autres, bien évidemment, c'est de faire le point sur la situation entre les hausses des charges, l'évolution des marchés, les incertitudes climatiques. On voit bien que les agriculteurs traversent une actualité dure. Une période profonde en termes de mutation. Et donc, pour en parler aujourd'hui, ben justement, c'était l'occasion de vous rencontrer, tous les deux, qui accompagnez au quotidien de nombreuses exploitations sur le département des Hautes-Pyrénées. Bonjour René Fréchou. Bonjour Catherine Saint-Dupont. Une première question, c'est de faire un peu l'état des lieux de la ferme, entre guillemets, Hautes-Pyrénées. René, quel diagnostic vous faites aujourd'hui de la situation économique des exploitations agricoles dans les Hautes-Pyrénées ?
Alors aujourd'hui, l'agriculture des Hautes-Pyrénées, on a trois zones distinctes. La vallée de la Dour avec les céréaliers qui, eux, sont sur de la production de céréales, bien sûr, mais qui vont sortir très certainement leur épingle du jeu. Ça va être plus compliqué dans les coteaux en céréales et en élevage un peu avec la DMC qui fait partie de l'actualité. et la zone montagne qui, elle, n'est pas trop touchée pour le moment par, au niveau économique sur l'agriculture d'aujourd'hui.
Catherine, peut-être nous dire en termes de revenus en particulier, si ces revenus sont stables, en baisse ou très contrastés, comme on vient de l'entendre de la part de René, selon les filières. Et surtout, quels sont les principaux signaux que vous observez, vous, actuellement dans les suivis comptables ?
Alors les revenus effectivement sont impactés tel que le disait donc René en fonction du secteur d'activité et de la zone territoriale. Sur les coteaux, les revenus sont toujours relativement plus bas et la tendance ne fait que se confirmer par rapport à ça. Il y a des systèmes en fait de fonctionnement agricole qui peuvent créer quelques différences comme au niveau des vallées par rapport à l'irrigation et autres. Donc là c'est des sujets qu'on aborde aussi avec d'autres organismes comme Rivé et autres, donc on abandonne ça. Et les chiffres en fait traduisent cette difficulté des exploitations agricoles où on constate aussi dans les Hautes-Pyrénées une très forte proportion en fait à la micro-entreprise et les seuils font que pas mal d'exploitations qui étaient au réel par le passé en fait ont l'opportunité, si on peut l'appeler comme ça, de revenir sur un système de micro-entreprise.
Beaucoup d'agriculteurs parlent depuis un certain nombre d'années de l'effet ciseau, donc d'une situation entre les charges et les prix agricoles. Concrètement, aujourd'hui, vous le mesurez sans doute en un certain nombre d'exploitations et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de cette situation ?
L'effet ciseau, effectivement, alors on l'appelle pas forcément comme ça, mais le rapport en fait hein, par rapport au résultat donc entre les produits et les charges, une difficulté que l'on ressent de plus en plus donc à équilibrer en fait et à assumer des charges qui sont toujours plus croissante en fait. Hein. Donc les exploitations agricoles sont soumises et subissent en fait ce genre de difficultés. Et on constate que les résultats effectivement en sont d'autant plus impactés. Et comme le disait René, en fonction des zones, on constate effectivement et des productions aussi un écart qui se creuse à ce niveau-là.
René, dites-nous un petit peu quelles sont justement en termes de charges, quelles sont les charges qui pèsent aujourd'hui le plus lourd en moyenne sur une exploitation agricole des Hautes-Pyrénées ?
Le problème des charges, c'est que les normes sont de plus en plus compliquées pour appliquer et de plus en plus coûteuses. Et aujourd'hui, on est lié au marché mondial qui fait qu'avec les accords du Mercosur, les céréales, les marchés ne montent pas. Et les charges montent. Donc à un moment, on essaye de, par l'agrandissement, de compenser un peu, mais ça aura très vite des limites.
Alors on parle souvent de charges matérielles. Ce qu'elles représentent sur l'exploitation aujourd'hui, est-ce que cette charge, elle augmente actuellement ou est-ce qu'elle est de plus en plus collective ?
Non, la charge matérielle, en fait, elle est liée aux investissements qui sont nécessaires pour l'exploitant agricole pour arriver à fonctionner normalement. Il y a aujourd'hui des agriculteurs qui n'ont plus la capacité financière à investir comme ils devraient pouvoir investir pour fonctionner normalement. Et du coup, cette charge-là est maîtrisée, et en tout cas est réduite par la capacité qui se réduit d'autant, quoi.
Alors René et Catherine, vous nous avez parlé de cette diversité des exploitations sur notre territoire, comme sur toute la France d'ailleurs. Hein. Et justement, dans le contexte actuel, est-ce que vous avez pu repérer des filières qui sont plus particulièrement fragilisées économiquement aujourd'hui, Catherine ?
Alors les filières fragilisées aujourd'hui, celles qu'on constate, et je laisserai René confirmer, on est sur tout ce qui est élevage, transformation et vente directe. Donc là, il y a une difficulté effectivement qui est davantage accrue. Après, cette année, peut-être qu'au niveau donc des céréaliers avec des prix qui ne seront pas forcément au rendez-vous, on s'attend aussi à avoir une difficulté. Mais au départ, c'est la partie élevage qui est le plus compliquée. Et malheureusement, en subissant des situations comme la maladie qui peuvent rencontrer des épisodes, outils en fait qui viennent en fait aggraver cette situation là.
Alors justement par rapport à l'élevage et aux difficultés que vous soulignez, j'écoutais hier le président de ce salon et le conseiller régional vice-président qui est Jean-Louis Cazobon qui nous parlait de la souveraineté alimentaire pour ce territoire et vous nous dites que finalement les producteurs qui vendent en direct ont des difficultés aujourd'hui.
Alors la difficulté, elle vient plus de la chaîne de production en fait. Hein. Donc voilà, et toute la réglementation qui se met autour. Donc c'est ce qui en fait est plus à l'origine de plus localement cette difficulté là.
René, peut-être nous dire deux mots sur la filière céréales que vous connaissez bien, voir un petit peu justement après la situation des prix mondiaux, des cours, des équilibres actuels, le cours des engrais aussi, un petit peu où en est cette filière sur le territoire et quelles sont les perspectives pour cette année 2026.
Alors aujourd'hui, le prix des céréales à date monte un peu, on a pris 10 euros tonne. Quand par rapport à la guerre en Iran, on se retrouve avec des prix d'intrants qui ont quasiment doublé. Le GNR qui a pris 30 euros, ça va être catastrophique. Toutes les personnes qui ne s'étaient pas couvertes en engrais peut-être ne pourront pas remettre en culture d'ici un mois.
Y a-t-il une filière qui résiste bien aujourd'hui, Catherine, selon vous ?
Je pense plutôt à la filière céréale.
Oui. On va parler installation et transmission, puisque ça fait partie de vos services, j'imagine, inévitablement. Dans la situation de la transmission, on va parler aussi de l'endettement, parce que quand on transmet, il y a toujours la situation de l'endettement. Et de voir un petit peu les jeunes qui s'installent. Est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à vraiment à mettre en place des projets viables ?
Alors, on participe en fait avec la Chambre d'agriculture donc au projet de transmission d'installation. Effectivement, ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'anticiper au maximum en fait ces projets, de les travailler bien en amont. Si le projet en fait est suffisamment anticipé, il permet en fait de préparer le futur agriculteur en fait dans les conditions les plus adaptées possibles pour reprendre une exploitation qui correspondra aussi à sa capacité financière, celle qui pourra dégager. Si j'ai un mot, c'est anticiper vraiment et se faire accompagner le plus en amont possible.
Et alors René, un petit peu la transmission des exploitations cette année ou actuellement plutôt, comment ça se passe dans le département là, cette transmission ? C'est des agrandissements, c'est des jeunes qui reviennent, c'est de l'installation hors cadre familial ?
Alors aujourd'hui, on a des installations hors cadre familial, mais qui sont plutôt dans le sud du département, sur la partie montagne. Après, dans la zone céréalière traditionnelle, ça va plutôt à l'agrandissement parce que l'investissement pour acquérir une ferme est trop important aujourd'hui. Les fermes se divisent. Et après, dans les coteaux, aujourd'hui, il y aura très certainement un problème très rapidement de transmission des exploitations.
Alors, on va parler un petit peu de l'avenir, dans votre regard sur l'avenir, parce que face à ces difficultés, beaucoup parlent de diversification, de circuits courts, de production d'énergie aussi, dans le contexte avec le photovoltaïque ou la méthanisation. Et donc, est-ce que vous voyez, vous, émerger de nouveaux modèles économiques agricoles aujourd'hui ?
Alors, je pense à un essentiellement. On est en train d'être largement sollicité par l'agrivoltaïsme. Et donc, il y a pas mal d'études qui sont en cours et qui, effectivement, pourront en fait être une source de diversification importante pour les agriculteurs, en tout cas du département et notamment aussi au niveau des coteaux. Voilà.
Alors, peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'agrivoltaïsme.
L'agrivoltaïsme, c'est l'installation en fait de systèmes donc de production d'énergie sur donc des certaines catégories de terres. Voilà.
Merci. Et alors justement par rapport à ces nouveaux modèles, est-ce qu'il y a des pistes, René, il y a des pistes qui s'ouvrent, qui se réfléchissent au-delà de ces pistes-là et qui seraient susceptibles d'intéresser des jeunes qui sont en quête de projets?
Alors, juste une petite précision par rapport à la question que vous avez posée à Catherine. L'agrivoltaïsme oblige l'agriculteur à garder une production agricole sous les panneaux, qu'elle soit de production de fourrage, de céréales ou d'élevage. On ne fait pas des panneaux et on ne laisse pas pousser des ronces, hein. c'est pas le sujet. Après, aujourd'hui, l'énergie est vraiment quelque chose qui est très... parce qu'en fait, il se crée des unités de méthanisation. Les céréaliers sont les premiers à être partis sur le sujet. Et les Hautes-Pyrénées sont très peu en avance sur le sujet. Il faudrait multiplier par 4 ou par 5 le parc méthaniseur aujourd'hui.
Oui, dans une de nos émissions, nous avions investi cette question et interrogé la directrice de EPIX qui s'occupe d'Ecogaz, Sophie Villard. Et donc, effectivement, nos auditeurs sont bien informés sur la méthanisation. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci infiniment Catherine Dupont, directrice Serre France Hautes-Pyrénées. Merci infiniment René Fréchou, président Serre France Hautes-Pyrénées. Merci pour cet éclairage sur les réalités économiques de l'agriculture dans les Hautes-Pyrénées. Et puis, on voit bien, ça reste un sujet quand même essentiel parce que derrière ces chiffres, ce sont des fermes, ce sont des hommes et des femmes qui vivent sur nos territoires ruraux et qui se battent pour continuer à vivre. Donc merci infiniment et chers auditeurs, à très bientôt. Au revoir.
Et nous poursuivrons ce petit voyage au salon de l'agriculture de Tarbes qui s'est déroulé il y a une quinzaine de jours, puisque de nombreux acteurs de notre agriculture y étaient présents, bien sûr. Nous retrouverons donc Benoît Guillard dès vendredi prochain. En attendant, eh bien, vous pouvez réécouter cette émission, même la télécharger, la podcaster. Vous faites ce que vous voulez, c'est sur le site de la radio, radioprésence.com.
Up the street, like any mother you may know. To me, she is the one who had it planned to lead us all to wonderland. She always wanted us to go. She said, don't ever be lonely. Remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, I will be driven snow. Though life is never easy day to day, she has a very special way to make us smile when we are alone. And she
Présence, place du Capitole, 97.9.
Et tous les vendredis, c'est le coup de cœur en librairie. Cette semaine, c'est Nicolas Dargagène qui nous propose, en ce temps de carême, un ouvrage de ce temps-là. Il est intitulé « Combat spirituel ».
Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre qui nous amène à partir en guerre. Ce livre, c'est « Le combat spirituel » par le père Joël Guibert, édité chez Arthège en 2020 et sorti en poche en 2024 chez Efata. En effet, c'est bien à une guerre que l'auteur, prédicateur renommé, nous entraîne dans cet ouvrage. Mais le sous-titre du livre nous permet d'en comprendre la raison, car cette guerre, ce combat, est la clé de la paix intérieure. Le père Guibert l'explique dans son introduction. La paix intérieure. Qui parmi nous n'aspire pas à ce bien supérieur? La sérénité profonde. Qui ne court pas après? L'unité paisible de tout l'être. Qui ne la poursuit pas? Mais voilà, pour obtenir un tel trésor, pour entrer dans la paix du cœur, il faut se préparer à la guerre. Tel est le paradoxe que beaucoup ne saisissent pas et qui les prive de la paix profonde et durable. Oui, il n'y a pas de sérénité personnelle sans une guerre impitoyable contre certaines inerties qui nous paralysent, pas de paix intérieure sans combat spirituel. Il y a un lien très important entre le combat spirituel et la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. Le combat spirituel, ce n'est pas la finalité de la vie spirituelle. La finalité de la vie spirituelle, c'est l'union à Dieu, et donc le bonheur et la paix de Dieu. Le paradoxe est qu'on ne peut pas obtenir cette paix sans combat. Il faut entrer en guerre pour avoir la paix, il faut se fatiguer pour entrer dans le repos. Ce n'est pas le combat pour le combat, mais c'est un combat pour la paix. Pourquoi y a-t-il un combat? Eh bien, parce que nous naissons divisés, blessés par le péché originel. Nous naissons sortis de notre axe, nous avons quitté notre orientation profonde qui est de vivre à partir de Dieu. À partir de notre centre qui est Dieu. Le combat spirituel est de réunir toutes nos forces à partir du centre qui est Dieu, se recentrer vers Dieu, réorienter tout notre être vers notre Dieu Trinité. Le combat spirituel est d'abord l'affaire de Dieu, mais on n'est pas seul. Le combat spirituel a déjà été gagné par la mort et la résurrection du Christ. Ce combat, c'est se brancher sur la victoire du Christ qui a vaincu la mort. Le combat spirituel, ce n'est pas moi tout seul qui vais me battre. Le Christ nous a donné toutes les armes pour combattre. C'est-à-dire l'Église, les sept sacrements, la prière, la charité, les sacramentaux, la Sainte Vierge, les anges, les saints. Il y a une grande part de combat gagné quand on se met en état de se recevoir de la victoire du Christ et non pas dans une volonté de combattre seul. Dans cette lutte, dans ce combat, nous devons combattre deux maladies de l'âme, la philotie et la sédie. La philotie, le mot est très beau, cependant c'est une grave maladie, car il s'agit d'un amour démesuré de soi allant jusqu'au mépris de Dieu, au fait qu'on ne sait plus ou qu'on ne veut plus entendre Dieu. C'est une maladie très répandue dans notre monde moderne. Et puis il y a la sédie, une désespérance profonde dont souffre l'homme. Voici deux maladies, deux tentations à éviter pour mener à bien le combat, pour retrouver la paix et la joie dans la confiance en l'amour de Dieu. Le père Guibert nous propose un remède concret pour guérir de ces maux. Savoir dire oui à sa vie, à son histoire. C'est une attitude où le rejet de la rancœur et le pardon tiennent une place essentielle. Le cœur du combat, c'est arriver à s'abandonner à Dieu. Et donc le combat doit être enchâssé dans l'abandon. La grâce de l'abandon à Dieu va nous permettre de vivre le combat. La miséricorde de Dieu va nous permettre de nous relever. Et puis, le combat est long, mais nous ne sommes jamais seuls. Il nous faut être à l'écoute de l'Esprit, se laisser guider par la sagesse de l'Église et s'abriter sous le manteau de Marie. Car Marie est là dans nos heures d'angoisse, elle est là dans nos nuits de la foi. Marie a reçu de Dieu la mission particulière de nous conduire à travers les ténèbres et de nous rafraîchir par sa présence. Le père Guibert cite saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui écrivait dans le traité de la vraie dévotion « Cette bonne mère et maîtresse rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus est un chemin de rose et de miel. » Marie est là, présente, elle intervient pour nous. Le père Guibert nous propose là un ouvrage clair, constructif et enthousiasmant qui nous permet d'avoir des forces pour ce combat, pour obtenir une véritable paix intérieure. En cette période anxiogène, la lecture de cet ouvrage s'avère précieuse pour surmonter les subtiles et perverses manœuvres de Satan, dont le projet est de détourner l'homme du bonheur pour lequel Dieu l'a créé. La recherche de ce bonheur ne doit cependant pas être confondue avec la quête d'un développement personnel qui risque d'évacuer la croix, de négliger les moyen offert par la grâce, la prière et les sacrements, et de chercher l'équilibre dans un optimisme qui est une contrefaçon de l'espérance. Le père Guibert l'écrit d'ailleurs, « L'oubli de l'âme est la plus grande pauvreté de nos sociétés sophistiquées et la cause principale de leur grand mal-être. » Voilà un bon livre pour cheminer pendant le carême. D'ailleurs, le père Guibert prêchera à Lourdes une recollection à la paroisse du 28 au 30 mars sur le thème « Les clés de la paix intérieure », un bon moment de pause spirituelle à venir, ouvert à tous. Le combat spirituel, clé de la paix intérieure par le père Joël Guibert, édité chez Arthège et chez Efata, pour la version en format de poche, est en vente à la librairie de la Grotte à Lourdes et dans toutes les librairies.
C'était Nicolas Dargegène pour le coup de cœur en librairie. Voici Laurent Voulzy avant de retrouver le journal régional à 12h30. On se dit à tout de suite et très très bon appétit.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent. S'égare, un amour subtil l'a pris, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir un soir. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges, et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
Laurent Rosy sur Présence qui nous chantait Jeanne à 12h30 à la pendule de Présence. Merci d'être fidèle à nos programmes. C'est la mi-journée, c'est l'heure du grand journal. Nous sommes en plein cœur de ce Présence Midi.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour à tous. Nouvelle étape pour l'entreprise toulousaine Aura Aero. L'avionneur obtient le permis de construire de sa future usine à Toulouse-Francazal. Ce site de 50 000 m² doit permettre de produire des avions civils et militaires. Le projet entre désormais en phase opérationnelle avec des travaux attendus dès cette année. La mise en service est envisagée à l'horizon 2028. À terme, plus de 1 600 emplois directs pourraient être créés, ainsi que des milliers d'emplois indirects. Dans le même domaine, l'entreprise lotoise Figeac Aero multiplie les collaborations. Le groupe annonce 3 contrats pour produire des pièces au Mexique destinées à des avions Airbus, Boeing et Bombardier. Ces marchés évalués à 1,5 million de dollars par an seront réalisés sur le site de Chiloua. Les premières livraisons sont attendues dès 2026. L'A69 est désormais en service en Haute-Garonne, du moins en partie. Un tronçon de 2 km ouvre à la hauteur de Verveil. Il permet de dévier le trafic hors du centre-bourg, très sollicité ces derniers mois. Les automobilistes circulent provisoirement à 70 km/h sur une voie par sens. Ce contournement restera gratuit en attendant la mise en service complète et attendue d'ici fin 2026. Haute-Garonne au cœur d'un projet européen innovant. Baptisé SpongeWorks, ils expérimentent des paysages éponges dans la vallée de la Lèze. L'idée, c'est de mieux gérer face à l'eau et à la sécheresse et aux inondations. Porté notamment par le CNRS, le programme réunit 27 partenaires et doit se poursuivre jusqu'en 2028. Restons sur l'environnement. Planter un arbre pour grandir et comprendre le monde agricole, c'est possible dans le Gers. L'association des enfants et des arbres mobilise des collégiens pour une journée de plantation le 23 mars à Démus. L'objectif est de sensibiliser aux enjeux climatiques et agricoles. Depuis 2020, près de 28 000 jeunes ont déjà participé à cette initiative aux côtés de centaines d'agriculteurs pour restaurer haies et biodiversité. Enfin, Toulouse accueille son premier Equidène le 5 avril. Sur la piste des géants, 3000 coureurs sont attendus, répartis en 500 équipes. L'événement est organisé par le Grand Toulouse Athlétisme et Triathlon Toulouse Métropole. Chaque équipe se partage les 42 km en 6 relais. Une première édition déjà complète qui se veut accessible à tous.
Merci à Kevin Mouveau de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse d'avoir assuré pour nous ces informations tout au long de la semaine. On se retrouve dans quelques instants pour la chronique solidaire de Anne Deloa, juste après Nat King Cole.
Unforgettable, the a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been there. Unforgettable in every way. Forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Thank you. thinks that I am unforgettable too.
Chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Solidairement Vôtre. Aujourd'hui, nous vous proposons de préparer le cœur de la Semaine Sainte avec une initiative spirituelle proposée par la Cité Saint-Pierre à Lourdes. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, l'aumônier de la Cité Saint-Pierre, le père Jean-François Penouette. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et puis, Jérôme Cangrand, que nos auditeurs connaissent aussi, puisque vous êtes le directeur adjoint de la Cité Saint-Pierre et on a l'habitude de vous avoir à notre micro. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors, avant même d'entrer dans la proposition telle que vous nous la proposez, c'est vrai, pour ces jours saints, dites-nous, rappelez-nous, Père Jean-François, quel est le sens de ces trois jours saints, donc les trois jours avant la résurrection?
Voilà, alors on est au cœur là quand même et au sommet de l'année liturgique, puisque la fête de Pâques en est le couronnement. Depuis longtemps déjà, l'Église a donné une unité un peu à ces trois jours qu'on appelle le Triduum, pour ceux qui parlent un peu latin, Triduum Pascal, qui commence à vrai dire le Jeudi Saint par l'évocation donc de la scène du Seigneur, et puis le Vendredi Saint, donc le rappel de la mort du Christ, et puis le couronnement, bien sûr, c'est la veillée pascale, le samedi, et la célébration du jour de Pâques, le dimanche. Alors nous ne proposons que se retrouver le Vendredi Saint, parce que pour différentes raisons, les gens travaillent, etc. Donc notre proposition ira du Vendredi Saint soir jusqu'au lundi midi.
Donc on sera le 3 avril.
Tout à fait.
Du 3 au 6 avril 2026. Et toute notre émission va porter donc sur cette proposition. Les auditeurs qui ont envie de s'inscrire, il ne faudra pas hésiter à le faire. On donnera bien sûr tout à l'heure, Jérôme, les modalités pratiques. Pour l'instant, Jean-François, nous allons venir un peu plus dans la profondeur, le détail de votre proposition. Déjà, le thème.
Le thème. La joie de l'amour, une bonne nouvelle pour tous. Alors, la joie de l'amour, c'est du français. En latin, c'est Amoris Laetitia, qui est un texte du pape François qui avait été écrit suite à un synode sur les questions familiales, qui intègre une réflexion et une spiritualité sur l'amour humain, mais qui intègre aussi, et il a été d'ailleurs un peu contesté, controversé dans certains milieux, sur justement l'accueil aussi de toute forme de vie familiale, y compris donc des gens qui sont en situation entre guillemets irrégulière, type divorcé, remarié, etc. Voilà, donc c'est ce thème que nous avons retenu. Alors, c'est pas le thème des divorcés remariés qui unifie, bien sûr, le week-end. Ce qui unifie le week-end, c'est de dire comment le Christ ressuscité transforme toutes les réalités de nos vies affectives, familiales, quelle que soit notre situation.
Alors justement, au cours de ces 3 ou 4 jours, comment tout ce thème-là va nourrir la proposition que vous faites? Qu'est-ce qu'on va y trouver?
On va y trouver, bien sûr, les grandes célébrations, le vendredi, avec aussi, pendant cette célébration de la Passion, le vendredi soir, la présence aussi de toutes les souffrances humaines dans ce domaine, et il y en a beaucoup, on le sait bien. Mais aussi, on va y trouver des ateliers qui permettront de se retrouver, de se familiariser avec la parole de Dieu, en particulier le beau texte de la création de Genèse qui est lu à la veillée pascale, mais aussi le passage de la mer Rouge où, à travers nos épreuves, à travers nos difficultés, on est invité à accueillir le Christ ressuscité qui, de toute façon, transforme notre vie. Alors, des ateliers, mais aussi la présence d'une personne qui s'appelle Oran de Motor,
qui est-elle ?
Professeur à l'Institut catholique à Paris, qui a été responsable du département famille à la Conférence des évêques de France, qui est quelqu'un qui connaît bien Maurice Laetitia pour le coup et qui nous présentera une conférence dès le samedi matin.
Alors, je vais préciser aussi pour nos auditeurs, Père Jean-François, que vous êtes prêtre de la Mission de France, hein, tout en étant bien sûr l'aumônier de la cité Saint-Pierre. Et quand vous avez réfléchi à la proposition ou déroulement des journées, en mettant des ateliers, vous m'aviez dit d'ailleurs que ces ateliers, c'était aussi pour préparer en quelque sorte les célébrations. Qu'est-ce que vous entendez par là, justement, les ateliers qui vont avoir lieu le samedi saint ? Vous parliez donc du texte de la Genèse, de la création, du passage à la mer Rouge. Alors, comment vous allez intégrer tout cela ?
Alors, je ne sais pas encore tout à fait, parce qu'on a eu une réunion hier, on a déjà élaboré un peu des choses, mais effectivement, pour nous, la liturgie, pour tout chrétien, je crois, la liturgie est donnée par l'Église et on ne la change pas, on fait pas une liturgie à notre sauce. Mais on a quand même le souci, effectivement, que de manifester par des interventions, des témoignages, des intentions de prière, que telle ou telle réalité, donc ici les réalités de la vie familiale, de la vie affective, soit illuminée par la résurrection du Christ et donc de l'intégrer aussi aux différentes célébrations.
Alors, est-ce que ces journées, du coup, sont ouvertes à tout public ?
Tout à fait. Tout à fait. Chacun pourra y venir, alors qu'on soit en local, donc on peut y venir, mais Jérôme tout à l'heure en parlera sur les modalités d'inscription. On peut y venir pour une partie, pour une journée, pour une demi-journée, pour l'ensemble. Il y a une cohérence de l'ensemble, effectivement. Le summum, si je puis m'exprimer ainsi, c'est évidemment le samedi. Le dimanche est plus... mais qui est important aussi, évidemment, il y a la célébration du dimanche matin, mais il y aura aussi des rencontres l'après-midi avec des familles, justement, du secteur qui vivent aussi ces réalités familiales dans le cadre du travail et tout ça. Sans oublier l'aspect de la convivialité.
Et je pense que pour des auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette problématique que vous disiez au niveau des divorcés remariés et autres, des personnes qui ont des difficultés de couple, mais qui veulent aussi découvrir, mieux connaître ces situations, elles peuvent tout à fait être présentes à ce temps de spiritualité.
Ah, tout à fait. C'est pensé, j'allais pas dire d'abord, mais c'est pensé aussi, oui, pour intégrer ces personnes, effectivement, qui des fois, dans le cadre de leur paroisse, etc., n'arrivent pas bien à pouvoir parler de ces choses, en tout cas.
Voilà. Alors justement, Jérôme, on va venir à des choses plus pratiques, les modalités. Alors à la fois pour s'inscrire, qu'est-ce que vous proposez comme différentes formules aussi ?
Alors, plein de choses. Déjà, on a un mode d'inscription assez facile. Pour ce faire, il faut aller sur notre site internet www.citésaintpierre.org. Et sur la page d'accueil, on a un petit lien à cliquer pour pouvoir faire l'inscription. Donc, comme le disait très bien Jean-François, il y a plusieurs formules, plusieurs possibilités. Une formule en pension complète, donc du vendredi soir au lundi 6 avril. Donc, on est sur un prix conseillé à 127 € le week-end. Mais encore une fois, il ne faut pas que le prix soit un frein. On est quand même un établissement du Secours catholique à la cité Saint-Pierre. Donc on demande une participation minimum de 50 €, voilà, sur ce long week-end, on va dire. Et puis, si vous êtes local et que vous voulez quand même profiter de votre lit le soir, mais quand même vivre ces beaux moments à plusieurs, on a possibilité de prendre uniquement des repas ou même de venir uniquement aux ateliers. Donc voilà, il faut pas hésiter à venir vivre ce week-end dans
Alors justement, Jean-François ou Jérôme, si vous aviez un message pour nos éditeurs, pour ceux qui hésitent, qui se disent oh, « c'est peut-être pas pour moi » ou qui ne savent pas encore quoi faire de leur week-end de Pâques, pour vraiment les motiver, pour qu'ils viennent, qu'ils participent, qu'ils vivent vraiment d'une façon originale aussi la fête de Pâques, qu'est-ce que vous pouvez encore leur dire ?
Alors personnellement, je vais m'exprimer, mais pour moi c'est vivre Pâques un peu autrement. Comme le disait Jean-François, il va y avoir des enseignements de qualité, il va y avoir une dimension fraternelle assez importante. Il y aura aussi des musiciens, un musicien notamment qui sera présent pendant le week-end. Et puis, on pourra vivre cette liturgie en vraiment la préparant individuellement. Il y aura des ateliers pour ça l'après-midi. Et donc, on pourra, au lieu d'être spectateur de Pâques, ce qui est très bien aussi à la messe, on pourra pleinement participer à la préparation des chants, à la préparation de la liturgie. Et c'est aussi de le vivre de façon communautaire.
Jean-François, un mot ?
Oui, je crois que Jérôme a bien dit les choses. Je crois que ce week-end rassemblera à la fois prière, célébration, réflexion, sans se prendre la tête quand même, mais aussi convivialité, découverte de ce beau lieu de la cité Saint-Pierre, et détente aussi, parce que c'est quand même un week-end fait pour se détendre.
Merci beaucoup Père Jean-François, merci beaucoup Jérôme, déjà pour votre témoignage, et puis ces explications, et puis bien sûr cette invitation, donc pour tous nos éditeurs qui seraient intéressés pour venir, bah, qu'ils se mettent sur le site de la cité Saint-Pierre par internet, et puis ou bien ceux qui sont pas loin, ils viennent directement vous voir à l'accueil pour en avoir savoir un peu plus.
Oui, ou par téléphone aussi, ça peut aussi se faire par téléphone.
En tout cas, merci à tous et à toutes de votre écoute, et puis déjà, très belle route vers Pâques. À bientôt.
À bientôt, merci à tous.
Et retour de cette chronique solidaire d'Anne Deslois dès vendredi prochain dans le Présence Midi. En attendant, on écoute Mourane au clair de ma plume avant de retrouver l'auteur qui a écrit sur nos belles Pyrénées en compagnie de Catherine Albrecht. Il s'agit de Alphonse de Lamartine.
À redouter l'aube qui vous enlève, tout me semble facile et si beau. Avant la citrouille et les crapauds, au clair de ma plume, mes amis les mots, prêtez-moi la lune pour écrire à mon Pierrot. Au jour les écumes, nuit j'oublie mes mots, je n'ai plus de chant d'éléments, le feu. Le jour est cruel, au rester un peu, je me sens si belle dans vos doux. Le monde m'en veut et m'en veut. J'ai beau fermer tous mes volets, blotti sans bruit dans la plus profonde obscurité. J'attends caché, mais rien n'y fait. Mal à méfiant, rien ne vient dans les rêves éveillés. Cet enfant, je la redeviendrai. Visage aimé, je les reverrai. Peut-être qu'un beau jour en secret, en belle nuit, je le changerai. Au clair de ma plume, mes amis, le mot, prêtez-moi la lune pour écrire à mon Pierrot. Au jour les écumes, nuit j'oublie mes mots, je n'ai plus de chant d'éléments. Le feu, le jour est cruel, au rester un peu. Je me sens si belle dans vos doux yeux. Le monde m'en mêle et m'en veut. Les nuits seront l'indubitable réel. Les jours aux fables feront jumeaux jumelles. Nous vivrons des rêves et rêverons de sommeil. Dans un grand feu, je brûlerai des millions de sonneries d'âmes réveillées. Au clair de ma plume, mes amis, les mots, prêtez-moi la lune pour écrire à mon Pierrot. Au jour les écumes, nuit j'oublie mes mots, je n'ai plus de chant d'éléments, le feu. Le jour est cruel, au rester un peu. Je me sens si belle dans vos doux yeux. Le monde m'en mêle et m'en veut.
À Auch 89.6.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Alphonse de Lamartine. Au XIXe siècle, Bagnères de Bigorre est la capitale thermale des Pyrénées et attire à la saison une bonne partie du Gotha aristocratique, politique et artistique de l'Europe. Ses équipements de bains et de loisirs, sa situation privilégiée dans la magnifique vallée de Campan au pic du Midi en font la station préférée des curistes et des dandies. On va au moins un jour à Bagnères, même si l'on est en villégiature à Cotterêts, Barèges ou Luchon. En 1825, Georges Sand y vient depuis Cotterêts et décrit une ville de plaisir avec des demeures opulentes, des attelages de luxe, beaucoup de fêtes, de spectacles, de monde et de bruit. Charles Baudelaire, alors à Barèges, y passe en 1838. C'est un lieu de délices, le plus beau pays de France. Lamartine arrive en juillet 1840 dans les Pyrénées pour soigner des rhumatismes. Il est déjà célèbre. Député, académicien, il a publié avec succès plusieurs recueils de poésie. Les stations à la mode se disputent sa présence, car le poète n'a pas son pareil pour vanter en quelques mots une ville ou un paysage. Il se rend d'abord à Pau, où lors d'une promenade dans le parc du château, face aux Pyrénées, il déclame « Voilà la plus belle vue de la terre, comme Naples a la plus belle vue de la mer. » Bagnères attend impatiemment son tour et espère que le poète prononcera quelques vers sublimes sur le pic du Midi ou sur la ville. Il arrive le 14 juillet et on a organisé une sérénade en son honneur. Dans la foule qui se presse pour l'entendre, une touriste anglaise, Miss Ellis, va laisser le récit que je vais vous lire tout à l'heure de l'accueil offert au poète. Mais de vers et d'alexandrin, point. Seuls quelques mots de remerciement de Lamartine pour la réception. La plus belle vertu d'un peuple, c'est l'hospitalité. Les anciens en jugeaient ainsi, on la retrouve partout dans vos montagnes. Je n'ai d'autre titre aux bontés dont vous m'honorez que cette admiration passionnée pour votre beau pays. Admiration que je partage avec le monde entier, mais que vous me commandez de sentir plus profondément que tout. Vous voulez que je vous laisse un souvenir ? Je vous laisse celui de votre propre générosité et je vous laisse à jamais l'honneur que vous voulez bien me faire comme un titre de famille dont je me glorifierai dans ma patrie. Écoutons Sarah et Lys relater l'arrivée d'Alphonse de Lamartine à Bagnères. Nous arrivâmes au moment même où la foule se rassemblait devant la porte de l'hôtel où les musiciens avaient déjà pris place. La lune n'avait pas voulu manquer ce spectacle. Elle s'élevait au-dessus des sommets dans une poétique splendeur. Les gens d'ici, si différents de la foule anglaise, étaient parfaitement calmes. Et lorsque la musique commença et que le poète et ses invités se furent penchés à la fenêtre, je pensais à cette étrange visite qu'il fit à cette femme admirable, Lady Stanhope. Aucune nuit ne fut jamais plus propice à une telle sérénade. La musique était bonne et la lune splendide. On chanta une de ses poésies et alors il parut particulièrement attentif. Nous eûmes enfin une chanson en patois et les gens furent alors incapables de se contenir plus longtemps. De violents éclats de rire fusèrent, soit l'esprit de la chanson, soit la familiarité de leur propre langue. Mais ce qui me charma le plus, la seule chose en vérité que nous étions venus entendre, fut un de ces chants farouches des montagnes, chanté à 3 ou 4 voix, et c'était une chose belle et émouvante. Nous ne pouvions que saisir ça et là quelques mots, mais ils étaient tels qu'avec la musique, ils représentaient clairement à l'esprit des images associées à la brise des montagnes, aux torrents étincelants, aux chèvres bondissantes et à tout ce qui appartient à la vie libre et audacieuse d'un brave montagnard. » Quand Lamartine eut terminé son discours au peuple, c'est à peine si l'on put entendre un applaudissement. Mais le silence de la foule était, ce soir-là, infiniment plus expressif. Et je fus fort touchée de ce que cette scène avait d'approprié à la réception du poète. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Sarah Ellis. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Une émission proposée par Catherine Albrecht, et c'est là-dessus que s'achève ce Présence Midi que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. N'oubliez pas cet après-midi à 15h30 la prière du chapelet. Pour toutes vos intentions en ce vendredi de carême, n'hésitez pas, profitez-en et consommez sans modération de 15h30 à 16h en direct de la grotte de Lourdes. À toutes et à tous, bon appétit encore une fois avec un très beau soleil et à très bientôt.
Talk about a moon floating in the sky, looking like a lily on a lake. Talk about a bird learning how to fly, making all the music she can make. Happy talk, keep talking, happy talk. To do, you've gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true?
À Tarbes et Lourdes, 96.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Alors que la guerre contre l'Iran et ses alliés entre dans sa quatrième semaine, Israël a bombardé la nuit dernière.